Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour le service protestant. Le ministère de Jésus et de ses apôtres est ponctué de récits de guérison. Ce matin, je vous propose de nous arrêter sur l'un de ces récits, dans les Actes des apôtres, pour essayer de comprendre le sens du miracle. Avec ces questions à la clé, Dieu guérit-il toujours aujourd'hui? Et pourquoi passons-nous parfois à côté d'un miracle sans le voir? Pour en parler ce matin, mon invité, le pasteur Victor Hadzra, responsable national de l'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux pour la Fédération protestante. Bonjour Victor Hadzra.
Bonjour Benjamin.
Alors, ce titre un peu imposant, que se cache-t-il derrière? Quelle est votre fonction?
Derrière ce titre, il n'y a que le service.
Donc un service d'aumônerie nationale qui accompagne...
C'est le service... que l'Église dans son ensemble rend à la société dans le domaine de l'accompagnement. Ce service, dans son organisation actuelle, a été institué depuis 8 ans maintenant. Et je viens de relayer à ce poste-là la pasteur Isabelle Mécuchel qui a monté ce service et qui vient de passer sur le terrain comme aumônier.
Que font les aumôniers des hôpitaux sur le terrain?
Sur le terrain, les aumôniers sont dans l'accompagnement et dans l'accompagnement spirituel. C'est pas du soin parce que c'est pas prescrit par un médecin, mais c'est un complément aux soins. Cet accompagnement se fait par la présence, quelquefois que la présence, l'écoute en particulier, et puis la parole, si c'est nécessaire, la lecture et la prière. Si besoin se fait sentir. Donc, c'est des gens qui se rendent disponibles et qui sont agréés dans les hôpitaux après formation, envoyés par la Fédération protestante de France, qui sont agréés dans les hôpitaux pour assurer cette présence auprès de ceux qui sont fragilisés par la maladie, le grand âge, le handicap et tout ce qui peut faire tomber l'être humain, le maintenir couché, on peut dire, mais essayer de les remettre debout. Voilà.
Alors ce matin, vous avez fait le choix de prendre pour la méditation un texte de guérison d'un infirme dans les Actes des apôtres, hein, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus,
oui.
Les premiers actes des disciples, des apôtres qui ont suivi Jésus. Pourquoi avoir choisi ce texte?
Je vois que ce texte entre très bien dans la logique de ce que nous faisons en termes d'aumônerie. Quoique ça ne se fait pas de la même manière que ça s'est passé dans le texte, mais nous sommes tous en chemin pour remettre les gens qui sont assis, couchés, debout. Et là, dans ce texte, effectivement, c'est quelqu'un qui était assis, couché depuis très longtemps. Que les disciples, dans leurs premières expériences après le départ de Jésus, vont approcher, peut-être malgré eux, et par eux, le remettre debout, à la surprise de tous. Voilà.
Alors je vous propose qu'on écoute ce texte que vous allez nous lire donc dans le livre des Actes des apôtres dans la Bible.
Acte 3, versets 1 à 10, guérison d'un infirme. Nous lisons dans la Nouvelle Bible Second. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Or, on portait un homme infirme de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre avec Jean le fixa et dit « Regardez-nous ». Lui les observait, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit « Je ne possède ni argent ni or ». Mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher, louer Dieu. On le reconnaissait. C'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens furent remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui était arrivé. Ce récit nous situe au tout début du ministère des disciples, après le départ de Jésus, juste après la Pentecôte. La première communauté chrétienne commençait par s'organiser avec quelques pratiques encore calquées sur celles du judaïsme. Ceci explique la présence de Pierre et de Jean, deux disciples très proches de Jésus, au temple pour la prière à la 9e heure, depuis le lever du soleil, soit entre 2h et 3h de l'après-midi. C'est alors que notre reporter, Luc, probablement, arrête sa caméra sur une situation quotidienne et banale qui, cet après-midi-là, ne l'était plus. Un événement peu naturel va éveiller les attentions, faire diriger les projecteurs sur l'infirme que les gens avaient l'habitude de voir assis à la belle porte du temple, le héros d'un événement peu ordinaire. J'évoquais à l'instant une situation banale. La banalité de cette situation tenait tout d'abord à la présence d'un infirme, on parlerait aujourd'hui d'handicapé, à la belle porte du temple. Ce dernier est déposé, selon le texte, par on ne sait qui, tous les jours, depuis des années. Mais qui sont ceux qui se sont donné cette responsabilité quotidienne de le déposer là? Nous ne le savons. C'est peut-être des membres de sa famille ou des amis. Le « on » utilisé dans le récit peut également s'interpréter, s'éclairer par l'indifférence qui entoure cet homme. Dans le récit, l'intéressé n'a de nom que celui d'infirme, alors qu'il était connu de tous. Il faisait finalement partie du décor de l'entrée du temple, à tel point qu'il est devenu presque transparent aux yeux de ceux qui allaient prier. Certains, par tradition, selon la loi, qui demande de faire l'aumône aux pauvres, d'autres, par compassion, ou pour se donner une bonne conscience, lui jetaient une petite pièce sans vraiment le regarder. Sa présence est d'une grande banalité, et même s'il n'est pas reconnu comme tel, c'était bien une personne. Ensuite, il faut reconnaître que la loi de Moïse, dans son interprétation et son extension, n'est pas en sa faveur. À cause de sa condition physique à la naissance, l'interprétation de la loi l'a condamné à une prison qu'il ne méritait vraiment pas. Cette situation lui infligeait une triple peine. Son infirmité lui interdit non seulement l'accès au temple, selon 2 Samuel 5, versets 6 à 8, mais également le transforme en paralytique et ainsi en parasite social vivant aux dépens de la société. La loi juive, dans son interprétation, met les handicapés, surtout de naissance, en marge de la société parce que certaines maladies et infirmités de naissance sont mises sur le compte du péché, donc impures. La personne handicapée ne peut donc vivre une vie religieuse et sociale normale et encore moins travailler. Il ne peut vivre que de mendicité. C'est également le cas du mendiant aveugle Bartimée à la sortie de Jéricho, assis au bord du chemin, criant vers Jésus qui passait, dans Marc 10, verset 46. Ce faisant, la présence de ce handicapé à cet endroit tous les jours ne dérangeait personne. Cela relève de la banalité. Enfin, relève également de la banalité le fait qu'on, d'abord ceux qui portaient, puis tout le monde, ces passants anonymes, ont trouvé normal de le porter à la porte du temple tous les jours pour qu'il puisse vivre de mendicité. Remarquons que tout cet environnement, tant la société, ses règles que les aidants, tout contribue non à lui tendre la main ou lui procurer des béquilles pour l'aider à se lever, mais à le paralyser et le maintenir dans la cistana. Sa vie, aussi bornée, ne peut porter aucun espoir, encore moins une espérance. Combien d'années est-il resté immobile devant ce temple? Le texte ne nous le dit pas. Et lui, habitué à ne pas être regardé, ne se dérangeait plus pour regarder ce qui passait devant lui. L'essentiel était que les passants remarquent sa présence, je dirais plutôt son ombre, pour lui donner une petite pièce et donc faire un acte dit de compassion sans âme. Comme à son habitude, cet après-midi-là, il n'y a pas de raison qu'il prenne la peine de regarder Pierre et Jean qui passaient devant lui et qu'il a peut-être vu passer déjà sans que rien ne se passât. Il n'espérait d'eux autre chose qu'un geste de compassion matérielle et rien de plus. C'est juste dans cette attente qu'il les observait sans les regarder en face. « Regarde-nous, lui dirent-ils. Quelle puissance de vie peut véhiculer une telle interpellation et quelle énergie peut communiquer le regard ?» C'est tout comme ce qui se passe dans la rencontre de Jésus avec le jeune homme dit riche dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, les versets 17 à 22, où il est dit que l'ayant regardé, Jésus l'aima. Pierre et Jean lui offrent ainsi l'occasion de lever les yeux, de se redresser pour communiquer les yeux dans les yeux. Voilà pour une fois des gens qui s'intéressent à lui, qui vont le sortir de sa bulle. Pour une fois, ces gens ne font pas que passer, mais ils lui accordent la considération en s'arrêtant pour lui. Il se sent regardé, il lui adresse la parole, allant jusqu'à le toucher. Ce faisant, ils ouvrent les portes de sa prison, le sortant de son isolement et de son enfermement. Ainsi commence le processus de sa guérison. Il se sent guéri de son infirmité en se sentant libéré de son environnement paralysant. Il se sent exister et vivre. Il entre dans le temple, lieu qui lui était interdit. Il a retrouvé la guérison à travers l'attention soutenue par le regard, la parole et l'action, le geste au nom de Jésus-Christ. Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, lève-toi et marche. Cette déclaration qui s'exprime sur une catégorie autre que matérielle à laquelle il s'attendait, va déclencher un mouvement à double dimension spirituelle et physique. La démarche de Pierre et Jean touche l'infirme dans la profondeur de son être. Elle le bouscule, ce qui peut se comprendre comme l'action de l'Esprit de Dieu et qui va susciter la louange, c'est la dimension spirituelle. Cette première dimension spirituelle va avoir une résonance physique. C'est alors qu'il se lève, sautant de joie et il entre dans le temple. En mettant l'accent sur la dimension spirituelle de la guérison, est-ce à dire que la guérison vient de Dieu et que Dieu guérit encore? Certes, Dieu guérit toujours, mais pas toujours de manière spectaculaire comme il l'a fait par Pierre et Jean. Il est même souvent cité que le médecin soigne et c'est Dieu qui guérit. À ce niveau, il est intéressant de ne pas passer sous silence l'intérêt que la médecine moderne, aussi techniquement performante soit-elle, accorde à la dimension spirituelle du soin dans la prise en charge globale de la personne. Dieu guérit toujours. Seulement, nous ne le voyons pas toujours, je dirais, pour trois raisons. D'abord, dans un monde marqué par l'athéisme, le rationalisme et la toute-puissance de la science et de la technique de plus en plus efficace, la guérison dite miraculeuse nous semble appartenir à un passé lointain, un passé disparu. Même pour nous chrétiens, ces types de récits sont relégués à l'époque de Jésus et de l'Église primitive. Ils font partie des temps bibliques qui souvent se résument à des histoires qui sont racontées. Pourtant, ces récits n'appartiennent pas qu'au passé, mais aussi à l'aujourd'hui du royaume qui, en Jésus-Christ, s'est approché de nous, pour ne pas dire parmi nous, en plein cœur de notre monde. Notre conditionnement cérébral et psychologique fait que nous ne pouvons croire à la réalité et à l'actualité de ces récits. Nous avons pour certains du mal à y croire. Alors, bien que nous ayons quand même une petite foi, nous n'irions pas jusqu'à exiger un miracle spectaculaire. Non, nous sommes bien trop sceptiques pour ça. Nous pouvons nous retrouver dans cette image que donne un pasteur de ces méridionaux qui avait terriblement souffert de la sécheresse pendant tout un été, si bien que toute leur source s'était tarie, un désastre total pour les champs, les bêtes et les gens. En désespoir de cause, ils vont donc trouver le curé pour qu'il organise une procession afin d'obtenir la pluie. Or, au moment de se mettre en route, le curé s'adresse à ses ouailles. « Dieu ne fera pas pleuvoir, parce que vous êtes venu demander un miracle, mais vous n'y croyez pas. Pas un d'entre vous n'a emporté d'imperméable ou de parapluie. » Ensuite, pour nous autres qui y croyons Dieu comme fer, nous attendons une intervention spectaculaire de Dieu à la Pierre et Jean, quitte à tomber dans la tentation de s'estimer en droit de réclamer à Dieu un miracle. Nous pensons que Jésus, vu sa position de fils de Dieu, devrait provoquer le miracle attendu. Il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas droit à un miracle, par exemple quand nous sommes malades ou handicapés, dans une situation de danger extrême ou dans le désespoir le plus absolu. Égare si le miracle escompté ne se produit pas, ou bien ne se produit pas comme nous l'avions imaginé. Nous fonctionnons comme si nous pouvions nous permettre de donner des ordres à Dieu, comme si nous savions ce qui est le mieux pour nous ou pour les autres, comme si le but de la foi, c'est que tout aille bien pour nous et que nos souhaits toujours se réalisent. C'est ainsi que nous passons à côté de nombre de situations qui voient les gens autour de nous se remettre debout, de belles occasions qui peuvent être comptées parmi les miracles du quotidien pour lesquels nous pouvons donner gloire au Seigneur, comme le handicapé de la belle porte. Nous sommes dans un profond aveuglement devant les miracles et guérisons de tous les jours dans la vie de tant de gens qui se redressent et se remettent debout à côté de nous, dans une grande discrétion et une totale indifférence. Nous sommes tellement dans l'attente du spectaculaire que nous ne voyons rien se passer tout près de nous, dans la vie de ces handicapés et blessés de la vie, dont notre société fait des paralytiques et d'éternels assistés. Des Pierre et Jean portés par l'Esprit pour leur servir de levier afin de les remettre debout, ou du moins les maintenir droits, notre société en compte par milliers. Cependant, il nous faut sortir de nos aveuglements pour les voir en action dans les associations, organisations, églises ou à titre individuel à travers un regard, une simple présence, une parole, un geste, une main tendue. Enfin, notre époque vit le temps en instantané. Tout doit se jouer à l'instant. Il n'y a pas de temps pour attendre. Or, l'instant de Dieu ne peut se comprendre et se vivre qu'en rapport à sa notion du temps, qui n'est malheureusement pas toujours la nôtre. Et souvent, pour nous, le temps de Dieu prend trop de temps. Dans la situation évoquée dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre et Jean ont certes agi par l'Esprit, mais surtout en conjugaison avec la souveraineté et le temps de Dieu. Combien d'années a duré cette situation pour notre ami handicapé? Le récit ne nous le dit pas. Mais tout porte à croire qu'il s'est écoulé beaucoup d'années. Et ce jour-là, alors qu'il n'espérait plus rien, voilà que le énième passage des deux amis de Jésus, Pierre et Jean, qui l'ont certainement déjà vu par le passé assis à la même place sans pouvoir rien faire, va changer sa vie. C'est maintenant le temps de Dieu, le temps du Dieu souverain. En aumônerie des hôpitaux, établissements sanitaires et médico-sociaux, les situations sont diverses. L'hôpital est un lieu de souffrance pour celles et ceux qui sont fragilisés par la maladie, le handicap et le grand âge. Ce qui est certain, c'est que la personne qui entre en hôpital finit toujours par en sortir debout, courbée ou couchée. Il arrive souvent que cette sortie repose sur un miracle découlant de l'accompagnement des aumôniers à travers une simple présence, une écoute bienveillante, des gestes de compassion et si nécessaire, une parole, une lecture ou une prière dite au nom du Christ. Tous ces éléments construisent la démarche du « lève-toi et marche » à l'exemple de Pierre. Dans bien des cas, le « lève-toi et marche » trouve sa réalisation dans la sérénité, la confiance et le courage acquis par le patient suite à un bon accompagnement. Il arrive qu'il sorte guéri, donc debout, ou toujours dans un combat face à une maladie chronique, donc courbé, ou bien face à une fin de vie apaisée parce que le patient et sa famille sont dans l'acceptation. Cette dernière situation ne peut se terminer que par une sortie couchée. Heureux que la foi en Christ qui donne la victoire sur la mort la transforme en une sortie debout. Car pour nous chrétiens, la mort n'est pas la fin. Elle est passage vers la vie. Bienheureux donc celles et ceux qui, à l'écoute d'eux et par l'Esprit, à travers leur engagement, participent à cette belle entreprise pour remettre debout les personnes fragilisées par la maladie, l'infirmité, le grand âge, les blessés et écorchés de la vie qui n'ont d'autre lieu de vie et de survie que la rue ou la prison. Thank you. partager cette prière avec le pasteur Dietrich Bonnefer. Ô Dieu, je t'invoque dès l'aube. Aide-moi à prier. En moi, tout est sombre, mais en toi est la lumière. Je suis seul, mais tu ne m'abandonnes pas. Je suis sans courage, mais le secours est en toi. Je suis inquiet, mais la paix est en toi. En moi habite l'amertume, mais en toi la patience. Je ne comprends pas tes voies, mais tu connais mon chemin. Seigneur Jésus-Christ, tu étais pauvre, prisonnier, abandonné comme moi. Si personne ne m'assiste, tu restes avec moi. Tu ne m'oublies pas et tu me cherches. Tu veux que je te reconnaisse et me tourne vers toi. Seigneur, j'entends ton appel, je te suis, aide-moi. Devant toi, je pense à tous les miens. Seigneur, aie pitié. Seigneur, quoi que cette journée m'apporte, que ton nom soit loué. Amen.
J'étais en compagnie du pasteur Victor Adzra, responsable national de l'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Cédric Châtelus pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy, 75009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantaupluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivies à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wacknin. Bonne journée à vous sur France Culture.